avoir raison avec Suzanne Sontag.
En entrant dans le monde de la maladie, j'étais très impressionnée parce que c'était un monde qui était totalement étranger à moi. J'étais fascinée par le discours sur la maladie, par les mythes et les fantaisies qu'on crée autour de la maladie, surtout maintenant autour du cancer.
Suzanne Sontag est morte le 28 décembre 2004 d'une leucémie. En 1975, elle avait déjà réchappé à un cancer du sein en phase 4 qui avait touché son système lymphatique. En 1998, elle avait été atteinte d'un sarcome utérin. De cette entrée dans le monde de la maladie, comme elle le dit, elle écrira deux livres sur le cancer et le sida, avec une question en creux: comment faire face à la maladie? Sa réponse, tout simplement la regarder en face sans détour ni métaphore. En pleine épidémie de Covid, la question soulevée par Suzanne Sontag est cruellement d'actualité. Mais sa réponse est-elle si facile à entendre et à mettre en œuvre? Bonjour Elisabeth Lebovici.
Bonjour Géraldine.
Je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière émission d'Avoir raison avec Suzanne Sontag. Vous êtes historienne d'art, critique d'art et journaliste. Votre dernier livre, paru en 2017 aux éditions JRP Ringier, s'intitule « Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle ». Alors disons-le tout de suite, vous ne partagez pas une grande affection pour ces deux livres, pour les deux livres de Suzanne Sontag sur la maladie. Le premier qui s'intitule « La maladie comme métaphore » qui est paru en 78 et le second paru 10 ans plus tard, en 88, « Le sida et ses métaphores ». C'est un petit peu ironique de vous faire intervenir sur le sujet, mais peut-être dites-nous pourquoi ces deux livres-là ne vous enthousiasment pas.
Je vais vous répondre franchement. Pour moi, ces deux livres, c'est à la fois, j'ai peur d'avoir fait des choses qui leur ressemblent. Vous voyez, c'est une espèce de contre-modèle. Je fais une sorte de contre-transfert sur ces deux ouvrages.
En particulier. Et qu'est-ce qui serait grave dans le fait de ressembler à ces deux livres? Parce qu'il...
On va en parler. C'est tout le sujet de notre entretien aujourd'hui, je crois. Je pense que c'est une façon de parler de la maladie qui est extrêmement datée, en l'occurrence. On va essayer de comprendre pourquoi.
Extrêmement datée déjà à son époque, parce que on peut pas reprocher à Suzanne Sontag de parler de manière datée du cancer en 78 et du sida en 88, d'autant qu'on peut lui reconnaître de traiter le sujet du sida dès 1988, ce qui est très tôt.
Oui, puis il faut se replacer dans le contexte. On va reparler du cancer après, mais parler du sida en 88, c'est vraiment un moment. Parler du sida, rien que parler du sida en 88.
Le nommer,
c'est déjà quelque chose de complètement dément aux États-Unis, où le président Reagan, pour ne citer que lui, il va utiliser, je crois, le mot AIDS en 87. Donc effectivement, arriver et écrire un livre, on pourrait dire, sur le sida en 1988, c'est vrai que c'est vraiment dans l'actualité, dans le temps, etc. Et il va d'ailleurs susciter beaucoup de réactions. Il faudrait peut-être dire aussi, parce que ça va revenir un peu dans notre discours, que c'est des livres, mais c'est aussi des articles pour le New York Review of Books.
Oui, c'est plutôt que des essais, ce sont des recueils d'essais, voilà. Un petit peu comme ces textes sur la photographie, où c'est un ensemble d'articles qui forment une sorte de mosaïque sur le sujet. Alors, juste pour replacer dans le contexte, donc en 1978, Suzanne Sontag publie La maladie et ses métaphores. Ce texte porte notamment sur le cancer et elle essaye d'analyser le cancer à partir de ce qu'on en dit, à partir de ses images, à partir de ce qu'il suscite. Elle procède à des comparaisons notamment avec la tuberculose et avec toutes ces maladies qui, dans la littérature ou plus largement dans l'art, en fait, ne sont pas traitées en tant que maladies, en tant que telles, mais en fait sont toujours traitées sur une dimension artistique, esthétique, et morale. Et ça, c'est un projet qui, après tout, peut être tout à fait légitime et pertinent.
Oui, alors, en fait, effectivement, ces exemples sont toujours littéraires. Et ce qu'elle va faire, c'est, elle va dire ça. Bon, elle va dire, d'abord, j'aimerais bien citer ce premier paragraphe du livre qui est extrêmement beau. « La maladie est la zone d'ombre de la vie, un territoire auquel il coûte cher d'appartenir. En naissant, nous acquérons une double nationalité qui relève du royaume des bien portants comme de celui des malades. Et bien que nous préférerions tous présenter le bon passeport, le jour vient où chacun de nous est contraint, ne serait-ce qu'un court moment, de se reconnaître citoyen de l'autre contrée. » C'est pas mal, hein.
C'est même très beau.
Ouais, c'est vraiment bien. Et en fait, son truc, c'est de dire, en fait, les discours, toutes les métaphores qui sont utilisées pour caractériser la tuberculose d'un côté, le cancer de l'autre, et ensemble, c'est une double peine pour les malades, en fait. C'est comme une double peine. C'est-à-dire que non seulement ils sont malades, mais en plus, il y a effectivement tous les fantasmes que ces deux maladies suscitent qu'on leur applique. Et au lieu de laisser de comprendre que ce sont des phénomènes qui touchent le corps et dont le corps est véhicule, on va plus ou moins leur expliquer, enfin les écrivains, les écrivaines vont grâce aux exemples qu'elles dénichent vont expliquer en fait que d'un certain point de vue c'est un problème de comportement par exemple pour la tuberculose c'est une question de sensibilité par exemple
C'est un problème moral
voilà.
Sontag explique par exemple que la maladie alors déjà il y a une alternative qui est soit la maladie on ne la nomme pas parce qu'on a peur rien qu'en prononçant le mot on l'attrape ou alors qu'elle ne se développe, soit on en parle, mais quand on en parle, on ne dit pas, on ne prononce le nom que pour désigner autre chose qu'elle-même. Alors par exemple, la maladie ou le cancer, ce serait peut-être soit la cause, soit l'expression, soit la pénalisation de l'existence de sentiments, d'une sensibilité. On est amoureux de la mauvaise personne, si on a un cancer, c'est à cause de ça, ou le cancer vient exprimer ce mauvais choix.
D'ailleurs, ça vient de vous. C'est ça le truc. Et je me souviens qu'à l'époque, enfin, il me semble qu'à l'époque, on était très intéressés par les textes de Georges Grodek, qui était un psychanalyste et qui, effectivement, a travaillé le cancer comme une production d'une espèce d'un hors de soi qui arriverait dans le soi. C'est ce qu'elle raconte. Elle dit le cancer, c'est une sorte de soi qui développe un hors de soi qui l'envahit, des choses comme ça. Donc, effectivement, tout d'un coup, il y a une culpabilisation
du malade
qui est extrêmement violente. Et ça, c'est vrai que c'est assez pertinent.
C'est-à-dire que, en fait, tout le projet de Susan Sontag est pertinent. D'ailleurs, il s'inscrit assez naturellement dans son œuvre. On retrouve, d'une certaine manière, ce qu'elle disait dans Contre l'interprétation. D'ailleurs, au tout début du texte, Le sida et ses métaphores, elle cite elle-même Contre l'interprétation, oui. Donc qui est un de ses premiers essais, où elle disait qu'il ne fallait pas surinterpréter les œuvres et leur plaquer un sens, mais plutôt revenir à ce que l'œuvre crée en nous, au choc qu'elle produit. Elle dit exactement ça avec la maladie. Donc, c'est un projet assez cohérent.
Complètement cohérent. Et l'idée, c'est effectivement, et elle va le répéter à plusieurs reprises, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui pose problème, qu'elle veut purger la maladie de la métaphore. Elle veut trouver une espèce de vérité de la maladie, comme elle a voulu trouver une vérité du texte.
Et pourquoi est-ce un problème de purger, de vouloir purger ces métaphores ou de s'en débarrasser?
Justement, on va voir que les métaphores, on peut peut-être aussi les utiliser, on peut peut-être en produire d'autres. Et effectivement, cette espèce de volonté de pureté, d'essentialisation comme ça de la maladie paraît un tout petit peu problématique au regard de ce qui va se passer.
Moi, j'avais éprouvé un cancer très avancé il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et il y a 2 ans, j'étais diagnostiqué avec un autre cancer complètement nouveau, n'ayant rien à voir avec ce que j'avais il y a 20 ans. Et quand on entre ce labyrinthe de la grande maladie et on est concentré complètement sur cette lutte pour la vie et toutes les souffrances de la maladie et
du
traitement de chimiothérapie qui peut être très dur, il y a une espèce de purification. On souffre, mais ce n'est pas simplement la souffrance. Il y a aussi un dépassement de soi qui peut être positif. La vie offre beaucoup d'opportunités pour l'approfondissement, y inclut les situations les plus difficiles.
C'était la voix de Susan Sontag sur France Culture, à voix nue avec Chantal Thomas, diffusée au tout début de l'année 2001. Alors, j'ai voulu entendre cette archive et vous faire entendre cette archive, Elisabeth Lebovici, parce qu'elle emploie ce terme de purification. Et il me semble que vous avez employé le terme de purger, c'est-à-dire le projet de Susan Sontag en traitant de la maladie et de ses métaphores et de vouloir purger la maladie de toutes ses représentations, de tous ses fantasmes. Et elle-même, elle dit que quand elle a été malade, elle y a vu une sorte de purification. Finalement, est-ce que le geste de Sontag n'est pas aussi une manière de purger la maladie, mais aussi de purifier et de rendre positive la maladie?
Écoutez, moi, c'est plutôt la première partie de la citation que vous avez passée qui m'intéresse. C'est effectivement cette difficulté à s'impliquer elle-même. Hein. Tout d'un coup, là, dans les années 2000, elle parle de son cancer, mais elle n'en parle jamais dans la maladie comme
métaphore. La maladie métaphore. Comme métaphore et le sida, c'est métaphore.
Et d'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez, on pourrait dire qu'en fait, les métaphores sont une maladie. Voilà, pour elle, c'est ça. Hein,
y a oui, le véritable problème, c'est l'interprétation, c'est la métaphore, voilà. C'est ça, la maladie. Tout ce qui prolifère en termes de discours.
Exactement. Mais alors, justement, ce que j'ai trouvé assez foudroyant, c'est que tout d'un coup, dans le deuxième livre, le sida et ses métaphores, bon, il est dédié à Paul Thek. On va revenir
qui sur... est Paul Thek.
Alors, Paul Thek, c'est un artiste extraordinaire, absolument extraordinaire, américain, qui a beaucoup bourlingué en Europe. Et qui a été le compagnon, pendant un certain temps, et en tout cas l'ami d'un autre artiste sur lequel elle a beaucoup écrit, en tout cas elle a écrit, qui s'appelle Peter Hujar, hein, qui est un photographe qui a eu cette exposition au Jeu de Paume. Et en fait, elle écrit Le sida et ses métaphores au moment où Paul Thek est en train de mourir et où Peter Hujar est en train de mourir du sida et au moment où un certain nombre de gens sont en train de mourir du sida. Et ça, elle ne le dit pas. Hein, c'est très important, je crois. Mais par contre, dans ce livre-là, elle explique qu'elle a eu un cancer. Et on comprend le sens de la première dédicace de la maladie comme métaphore, qui est dédiée donc à Lucien Israël, qui l'a, effectivement, qui lui a prescrit une chimiothérapie qu'elle ne devait pas savoir parce qu'elle était au stade 4 de la maladie. Et c'est là, me semble-t-il, où il y a vraiment le grand problème de ces deux textes, par rapport à tout ce qui a été écrit de façon plus contemporaine sur la maladie ou sur le sida.
Et c'est là où ils sont dépassés.
C'est sa distance. Oui. Et c'est là où ça rejoint cette question de purification. Pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression que Susan Sontag est une auteure moderniste. Moderniste au sens... Au sens pas contemporaine.
Pas d'art contemporain, qui relève pas du geste de
au sens de la théorie moderniste d'un Clement Greenberg, hein, le critique d'art américain, qui dit qu'en fait, toute œuvre d'art vise à se purger de tout ce qui serait extérieur à son propre médium. Hein. C'est exactement ça, c'est cette purge qui est tout le temps infligée aux choses. Et alors là, bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit en fait la maladie n'a pas de sens, le sida n'a pas de sens, l'acronyme sida, ça n'a pas de sens. Ça, moi je trouve ça intéressant. Mais et d'ailleurs, on rejoint tout à fait l'histoire de la littérature moderne. On pense à Mallarmé qui dit vider le verre. Ça, je trouve ça intéressant. Mais en même temps, pourquoi ne pas penser les métaphores, les utiliser, et pourquoi ne pas essayer de comprendre comment elles sont utilisées, non seulement dans le discours littéraire, mais aussi dans le discours médical. Hein. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, ne va pas du tout.
Le problème, c'est finalement, et pardonnez-moi de vous interrompre, oui. Elisabeth Lebovici, mais en fait, le problème, c'est que quand on lit le texte de Susan Sontag, et il faut le dire aux auditeurs et aux auditrices, c'est que la maladie comme métaphore ou le sida et ses métaphores, ce sont deux textes qui ne sont pas poignants.
Non.
Et c'est vrai que en les ouvrant, j'avais peur d'être un peu paralysée, voilà, en larmes même. Et effectivement, j'ai été plus touchée par des textes qu'elle écrit sur la photographie où elle raconte, par exemple, quand elle découvre les corps de Dacho quand elle avait 12 ans sur des photographies, que quand elle parle de la maladie. Effectivement, cette distance, à force de vouloir se débarrasser de la métaphore, de l'interprétation et peut-être d'un matériau sensible, elle perd de vue le sujet et l'impact que pourrait avoir le sujet.
Absolument. Alors, c'est exactement comment le livre est reçu à l'époque. Et en fait, il est très mal reçu, hein, le sida. En tout cas, il est assez mal reçu par un certain nombre.
Et la maladie nombre. Comme métaphore, il avait...
Je ne peux pas vous dire. Alors ça, j'avoue, je ne sais pas. Mais par contre, le sida, tout d'un coup, il déclenche effectivement un certain nombre de textes militants, bien sûr, qui disent quoi? En fait, c'est une traître, Susan Sontag. Bon, elle vient de s'occuper de Paul Thek. Elle vient etc. Et elle parle, elle a un ton complètement hétéronormé. Elle parle, en fait, en tant que rédactrice à la New York Review of Books. Et quand vous dites « ce n'est pas poignant », pour moi et pour les gens de l'époque, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'elle parle en tant qu'écrivaine, elle parle en tant qu'intellectuelle.
En tant qu'essayiste.
Elle ne parle pas en tant qu'elle est affectée. par le sida. Et elle est affectée par le sida, comme elle a été affectée par le cancer.
C'est vrai que c'est très déconcertant. Et au moment où elle écrit en plus le sida et ses métaphores, elle est à ce moment-là, elle n'a pas encore eu son deuxième cancer, mais effectivement, elle l'a, c'est 10 ans plus tard, une dizaine d'années plus tard. Et effectivement, elle-même peut en témoigner de la douleur. Mais c'est vrai que... D'ailleurs, elle a écrit ce livre sur la photographie de guerre et de désastre qui s'appelle « Devant la douleur des autres », c'est-à-dire que la douleur, la joie, le sexe sont toujours traités de manière très désincarnée comme des objets théoriques, ce qu'on retrouve en fait dans ces textes-là.
Voilà, c'est exactement ce qu'on lui reproche. On lui reproche d'être dans une sorte de distance où on privilégie l'écriture et il y a un auteur, D.A. Miller, qui dans un article dit elle fait un cordon sanitaire autour de l'écriture. C'est-à-dire que là, il y a une désimplication par rapport à...
Ce qui est paradoxal par rapport au sujet.
Mais ce qui est complètement paradoxal, parce que c'est ça, en fait. Écrire un livre autour du sida ou sur le sida, c'est en être affecté. Et elle ne l'est pas. Et... Il y a aussi les métaphores inconscientes qu'elle manipule. Et alors, tollé général, parce qu'elle va quand même expliquer que les métaphores du sida, c'est quand même effectivement qu'elles s'appliquent à un certain type de sexualité. Bon, et à ce moment-là, elle renvoie le terme « les homosexuels », comme elle l'a fait pour les Notes on Camps, hein. Les homosexuels, pas mes amis gays, les homosexuels.
Comme elle disait, les homosexuels, les juifs.
Les juifs. Et tout d'un coup, elle les taxe, dans une phrase, d'avoir une sexualité véhémente et d'être dans la promiscuité. Donc tout d'un coup, elle aussi, elle utilise des métaphores, mais elle n'en est pas du tout consciente. Et elle renvoie, finalement, elle se détache complètement de sa communauté. Et effectivement, là, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et ça a marqué une rupture avec le milieu mondain, artistique, peut-être homosexuel, duquel elle était proche. Est-ce que, en fait, ce tollé, cette mauvaise réception du sida et ses métaphores a transformé quelque chose à la fois dans sa vie, mais peut-être aussi dans sa manière d'écrire? Ou non, en fait, on n'a pas d'autres traces en fait, de cette assumption-là?
Non, parce que si vous voulez, je crois qu'effectivement, elle est toujours dans ce projet contre l'interprétation. Donc, finalement, vous avez beaucoup parlé durant les émissions de la versatilité de Suzanne Sontag et bon, elle touche à tout, mais en même temps, il y a toujours cette espèce de projet finalement très moderniste et très formaliste et très essentialiste d'être une intellectuelle qui parle des choses et de faire des articles. Et ça c'est quand même un problème. Et effectivement, à la même époque, hein, il y a quand même une philosophe qui s'appelle Donna Haraway.
Toujours vivante,
qui parle des savoirs situés. Or, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Sontag ne situe rien. Hein, elle se désitue, on pourrait dire, de tout ce qui pourrait la faire, de tout ce qui pourrait la toucher.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que les points de départ des sujets de Suzanne Sontag, notamment la maladie, sont toujours des sujets qui la touchent. Les points de départ sont toujours des choses qui la touchent, mais la manière de les traiter impose une forme de distance. Ce qui est paradoxal quand il s'agit de la maladie, de la douleur, mais ce qui est encore plus paradoxal quand on connaît le geste premier quand même de contre l'interprétation qui dit je suis opposée à l'interprétation parce que ça nous coupe de l'immédiateté avec l'œuvre. Donc en fait, s'opposer aux métaphores et à l'interprétation, c'est vraiment paradoxal parce qu'en fait, elle ne revient même pas en fait à quelque chose de l'affect de la maladie, de l'affect de la photo, tout ça en fait, elle s'en sépare.
Exactement, ben voilà, vous avez dit les choses. Et c'est vrai que tout d'un coup, elle est laissée dans sa tour d'ivoire, on pourrait dire, alors que partout ailleurs, on est en 88 là encore, il y a des penseuses et des penseurs qui sont en train d'élaborer des théories, des émotions politiques finalement, et sont en train de se situer, et voilà, elle ne dit... Moi lesbienne, elle ne dit pas. Moi féministe, elle ne dit pas. Moi en deuil, elle ne dit pas.
Et surtout, elle emploie le jeu dans d'autres textes.
Voilà,
donc
exactement.
Pourquoi pas dans celui-ci?
Exactement. Et du coup, elle a un rapport complètement apocalyptique avec la mort, et elle ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer à savoir, bon, quand même, c'est aussi le gros reproche qui lui est fait, c'est-à-dire qu'elle fait totalement l'économie de la lutte contre le sida. Quand elle dit, il faut se débarrasser des métaphores militaires, il faut plus de métaphores, etc., la lutte contre le sida, elle est complètement dans la métaphore de la guerre. Je me souviens, à ACT UP, on disait, le sida, c'est la guerre, ACT UP, en colère. Enfin, je veux dire, c'est le geste même du militant dans le militaire qu'elle oublie. Et donc, effectivement, là, elle va se séparer très violemment avec tout l'activisme et le militantisme où se trouvent d'autres ferments théoriques.
J'ai découvert qu'il y avait un stigme énorme, que le cancer était une chose que même à cette époque, c'était la fin des années 70, quand les gens avaient difficulté à prononcer le mot. On disait le grand C, on disait simplement une maladie très grave. Il y avait énormément de gens qui avaient même peur de prononcer le mot. Et que le cancer, en tant que mot, en tant qu'idée, était un synonyme du mal. On pouvait même l'utiliser métaphoriquement pour dire quelque chose est un cancer dans notre vie sociale. Personne dit que je ne sais pas quoi, quel problème social est un infarctus ou un diabète ou une autre maladie, mais on utilise le mot cancer métaphoriquement, et c'est très fréquent. Alors j'ai découvert toute cette horreur de cette maladie au-delà d'une peur normale. Oui. Et je voulais écrire pour expliquer d'où vient et quel sens, ou plutôt le non-sens de ces mystifications qui entoure cette maladie en particulier.
C'était encore la voix de Suzanne Sontag sur France Culture à Voix Nue avec Chantal Thomas 2001. Alors on a entendu, là, elle resitue en fait tout ce qu'on a dit du projet de ce livre La maladie comme métaphore. Elle emploie ce terme de démystification qui, on l'a dit Elisabeth Lebovici, finalement en vient un peu à trop purger les maladies dont elle traite, que ce soit le cancer ou le sida. Est-ce qu'il y a une autre manière de procéder que celle qu'a employée Suzanne Sontag, peut-être à son époque, une autre manière, non pas de supprimer ou de lutter contre les métaphores, mais plutôt de les transformer?
Alors oui, bon, écoutez, tout l'art, hein, pour commencer. Bon, je ne sais pas, on peut prendre un exemple très touchant.
Quand je rappelle quand même que vous êtes l'auteur de Ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle. Donc voilà. J'imagine qu'il y a matière.
Bon, alors, métaphore, métonymie, j'en sais rien, on peut discuter. Quand Félix González Torres, par exemple, met deux horloges côte à côte, hein, et qu'il appelle ça « perfect lovers », des horloges qui sont parfaitement synchronisées. Et puis à un moment, et comme elles ont des mécanismes différents, elles vont se désynchroniser. Mm-hmm. Ok. Bon, c'est des métaphores, non?
L'art est une métaphore.
Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas... Voilà, on peut aussi utiliser productivement les métaphores. Et puis aussi, il faut aussi, enfin, on peut pas penser les métaphores du sida dans seulement la littérature. On est bien obligé aussi de comprendre comment, effectivement, d'autres formes de connaissances et de savoir vont utiliser ces métaphores et s'en saisir. Et on peut pas écrire sur le sida, même en 88, enfin.
Ou sur le cancer.
Ou sur le cancer, sans parler des politiques de santé, des systèmes de santé qui construisent aussi bien la maladie, hein, et de beaucoup d'autres choses. Alors, je sais pas, moi je pense immédiatement à quelqu'un comme Audrey Lorde.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Audrey Lorde?
Donc, c'est cette, d'ailleurs elle le dit elle-même, la première chose qu'elle dit c'est, j'ai le cancer, je suis une poète noire féministe. Bon, lesbienne. Voilà, c'est tout.
Qui est complètement contemporaine Suzanne Sontag. Oui, oui. Elle est née en 1934, Suzanne Sontag est née en 1933, et Audrey Lorde est décédée en 1992, soit une dizaine d'années avant Suzanne Sontag, et elle a donc écrit « Journal du cancer » qui est sorti en 1980. Donc vraiment, il y a une forme de parallèle entre ces deux femmes assez frappant.
Voilà, et c'est évidemment tout le contraire, c'est-à-dire que c'est un journal situé, c'est... J'ai le cancer, je suis une poète noire, féministe, lesbienne, qu'est-ce que je vais faire? Et le projet d'Audrey Lorde, c'est un projet à la fois personnel, mais contrairement à Suzanne Sontag, c'est aussi un projet pédagogique, c'est un projet de solidarité. Et un petit peu avant, en 77, à un congrès d'écrivaines lesbiennes, elle a prononcé ces phrases absolument inouïes qui sont de dire, voilà, j'ai eu un cancer,
Audrey Lorde.
Audrey Lorde, elle dit... Mon silence ne m'a pas protégée. votre silence ne vous protégera pas. Donc silence égale mort. Et c'est ce silence égale mort que Susan Sontag ne comprend pas.
Alors même qu'elle écrit, mais effectivement, ces mots n'en viennent pas à dire quelque chose.
Parce que dire « j'ai un cancer », enfin, se dire là, c'est le dire à des autres, et c'est tout d'un coup proposer à des autres d'être solidaire avec vous. Je pense à ce moment important que Sontag a vécu, parce que c'est en 83. D'ailleurs, 83. 83, c'est l'année où à la fois on parle de viralité en informatique, bon, c'est intéressant, et de virus, mais c'est aussi le moment où à Denver, il y a un groupe de gens qui disent « on n'est plus des malades, on n'est pas des patients, et d'ailleurs on n'est pas du tout patients ». Nous sommes des people with AIDS. Nous sommes des gens qui vivons avec le sida. Et ça, c'est quelque chose que Susan Sontag ignore complètement. C'est-à-dire cette idée que la lutte, comme Audrey Lorde avec son cancer, c'est de partager cette vie avec. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi beaucoup instruire un texte philosophique comme celui d'Alain Ménil,
qui est donc un philosophe français,
est un philosophe français
décédé en 2012,
voilà, et qui a écrit un très, à mon avis, enfin, je trouve que c'est un magnifique livre qui s'appelle Saint avec un T entre parenthèses et sauf une épidémie de l'interprétation.
Sida, une épidémie de l'interprétation, c'est sorti en 97.
Voilà.
On retrouve d'ailleurs ce terme d'interprétation.
Et voilà. Et justement, lui, ce qu'il veut, c'est comment comprendre comment les métaphores témoignent de l'incapacité de penser le sida, effectivement, dans sa réalité corporelle, mais aussi dans sa réalité institutionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il réfléchit comment, effectivement, la maladie est prise non seulement dans des métaphores corporelles, mais aussi, il est produit par des institutions. Il est... voilà, il y a tout un trajet qui va aller du corps au système qui produit ce corps et qui tente de le soigner.
On est en pleine épidémie de Covid, on va bientôt se quitter, ouais. Elisabeth Lebovici. Est-ce que quand même, malgré tout ce qu'on a dit, vous retiendrez quelque chose du geste de Susan Sontag sur la maladie ? Est-ce que ce texte résonne autrement aujourd'hui ?
Écoutez... Il y a évidemment beaucoup d'études de métaphores peut-être à faire, mais moi je préfère effectivement la réponse d'Alain Ménil qui dit il faut apprendre, et pour le coronavirus c'est pareil, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à vivre des sérologies différentes, il faut apprendre à vivre avec ces sérologies différentes en intégrant à la fois les affections pathologiques et les soins, ce dont Sontag ne parle pas. Bon, effectivement. Et je préfère ce discours-là que ce discours totalement distancié et finalement qui s'échappe loin de nous.
Merci beaucoup, Elisabeth Lebovici. Alors aujourd'hui, on n'aura pas raison avec Susan Sontag. En tout cas, merci de vous. On peut lire ce que le sida m'a fait, art et activisme à la fin du XXe siècle. C'est paru aux éditions J.R.P. Ringier. Je rappelle que les œuvres de Susan Sontag, la plupart qu'on a évoquées cette semaine, notes sur le camp, contre l'interprétation, ses journaux sur la photographie devant la douleur des autres et ceux dont on a parlé aujourd'hui sur la maladie comme métaphore ou le sida et ses métaphores, sont disponibles en français aux éditions Christophe Bourgois. J'en profite aussi pour citer son entretien avec Jonathan Cote, Tout et rien d'autre, une bonne entrée dans l'œuvre de Susan Sontag, c'est paru aux éditions Climat Flammarion. Un grand merci à Anaïs Isbert, Marie-Laure Ciboulet à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la prise de son et Camille Cazot pour les pages du site. Et justement, si vous souhaitez réécouter toute cette série Avoir raison avec Susan Sontag, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture.